Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est un mouvement qui irrigue la société algérienne. Nouvelle journée de mobilisation contre un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. La rue sera à nouveau occupée ce vendredi, dans le calme a priori. Et vous comprendrez pourquoi.
Nous entendrons ensuite Benjamin Netanyahou. Le procureur général veut l'inculper pour corruption notamment. Le premier ministre israélien dénonce une chasse aux sorcières et évoque un complot de la gauche.
Reportage ensuite saisissant dans le Kurdistan irakien. Notre envoyé spécial y a rencontré une ancienne esclave du groupe État islamique. Elle semble souffrir du syndrome de Stockholm qui lui ferait regretter ses bourreaux. Vous l'entendrez.
L'Académie française valide la féminisation des noms de métiers, un sujet longtemps resté tabou. L'usage, précise l'Académie, aura le dernier mot.
Le fils inattendu d'Alain Juppé lui rend visite ce matin. Emmanuel Macron est à Bordeaux. Stéphane Robert s'en fera l'écho dans son billet politique. Ce sera après ce journal. Comme vendredi dernier, les appels se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Les Algériens sont appelés à manifester aujourd'hui, tous citoyens confondus. Ils dénoncent la candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour un cinquième mandat à la tête du pays. Pendant ce temps, les autorités surveillent, procèdent parfois à des arrestations de courte durée, comme cette dizaine de journalistes arrêtés hier plusieurs heures après avoir participé à un rassemblement contre la censure. Comment expliquer cette non-violence dans les rues? L'Algérie a peut-être, Thibaut Cavaillès, un passé douloureux qu'elle veut oublier, d'où ses appels au plus grand calme.
C'était lundi dernier, devant les députés algériens, le Premier ministre Ahmed Ouyahia.
La Constitution garantit aux citoyens le droit de manifester pacifiquement, dans le cadre de la loi.
Pacifiquement, les manifestants n'ont pas eu besoin du chef du gouvernement pour décider de protester dans le calme. Dans les cortèges, le mot « silmia » pour « pacifique » est entonné dès les premiers signes d'éventuelles heurts par des Algériens trop échaudés par l'actualité du monde arabo-musulman et par une période noire encore dans les esprits. Massensen Cherbi est chercheur à l'université d'Assas, spécialiste de l'Algérie où il se trouve actuellement.
En raison des expériences au Moyen-Orient, en Égypte, en Syrie, ce qui s'est passé en Irak, il s'agit d'éviter absolument toute violence de part et d'autre. Par ailleurs, ils ont l'expérience des années 1990 qui est un rebutoir.
La décennie noire et sa guerre civile, 150 000 morts, mais aussi les manifestations du 5 octobre 88, près de 500 personnes tuées, ou le printemps noir en 2001, 126 morts au cours d'émeutes autour de la question kabyle. Les Algériens ne veulent plus de sang, mais qu'en est-il des autorités qui jusque-là laissent faire? Massensen Cherbi.
Déjà sans doute ont-elles été surprises par les manifestations du 22 février dernier, et il est très difficile matériellement d'empêcher ces gens-là de manifester. D'est en ouest, du nord au sud, une grande partie de la population algérienne est dans la rue, toutes classes confondues, des jeunes générations aux plus anciennes. Pour un policier tiré sur la foule, c'est tiré sur ses propres enfants, sur ses frères, ses cousins, ses parents.
Et on l'a vu parmi les photos qui circulent depuis une semaine, celle d'un jeune manifestant le drapeau algérien sur les épaules, embrassant un policier présenté comme étant son père.
Et on a vu aussi un policier accepter une rose blanche d'une manifestante et l'accrocher à son bouclier anti-émeute ces derniers jours. Si la police laisse faire pour le moment, Amnesty International prévient déjà, elle appelle les forces de l'ordre à conserver cette retenue malgré la contestation grandissante. Corruption, abus de confiance, fraude, les accusations sont lourdes contre Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien fait face à une possible inculpation. Le procureur général l'a prévenu hier, à 40 jours des élections législatives dans le pays pour lesquelles Benjamin Netanyahou est candidat une cinquième fois. Hier soir, il a donc immédiatement réagi à la télévision, dénonçant un complot de la gauche.
La gauche sait qu'elle ne peut pas nous battre dans les urnes. Et c'est pourquoi depuis 3 ans, elle mène une campagne politique contre moi et une chasse à l'homme contre ma famille. Tout ça pour faire tomber notre gouvernement de droite. Et faire venir un gouvernement faible de gauche avec les deux principaux opposants. Ils ont mis une pression insupportable, même inhumaine, sur le procureur général. Tout cela pour interférer dans les élections. Et ce château de cartes va s'effondrer immédiatement après les élections.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, traduit par notre correspondant Étienne Monin. Bernard-Henri Lévy, vous êtes l'invité des matins de France Culture. Netanyahou peut-il résister face à ces accusations et surtout face à l'opposition ?
Écoutez, je ne sais pas s'il peut résister. Première chose que je sais, c'est que on a là la preuve, il sera sans doute inculpé, et on a là la preuve que la démocratie israélienne fonctionne, et qu'elle fonctionne bien. Il ira peut-être même en prison, comme un de ses prédécesseurs. Il n'y a pas beaucoup de démocratie qui donne cette image. Puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que il est temps que la page soit tournée. Et ça, c'est la preuve d'ailleurs, ce que je vous dis là, qu'on peut être inconditionnellement partisan d'Israël et radicalement opposé à la politique de son gouvernement, contrairement à ce que pensent quelques esprits simples dans un débat récent.
Bernard-Henri Lévy, on vous retrouve dans les matins de France Culture dans un peu plus de 10 minutes. Je précise que les législatives en Israël auront lieu le 18 avril prochain. Trois avocats ont déposé plainte devant le comité des droits de l'enfant de l'ONU. Ils portent la voix de familles qui dénoncent l'inaction française pour rapatrier les enfants de djihadistes. Aller les chercher serait une violation totale du droit de l'enfant, affirme ce matin le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Quels dangers peuvent-ils ou non représenter? Quels dangers aussi pour les femmes de djihadistes? Notre envoyé spécial est en ce moment à la frontière irako-syrienne, dans le camp de Kaya au Kurdistan irakien, à quelques kilomètres de Baghouz, la dernière poche du groupe État islamique en Syrie. Là se retrouvent notamment d'anciennes esclaves yézidis de Daesh. Converties à l'islam parfois de force, elles supportent difficilement ce retour, comme si leur bourreau avait réussi à les séduire. Rencontre avec l'une d'entre elles, grâce à Mathieu Mondoloni.
Il y a un mois maintenant que Zena, yézidi de 29 ans, a quitté la région de Baghouz. Mais ce n'est pas l'État islamique qu'elle a voulu fuir, ce sont les bombardements de la coalition anti-djihadiste. Elle dit qu'elle aurait préféré rester, que la vie sous Daesh n'était pas si dure.
C'était bien, au début j'étais la bonne, je travaillais, mais après je n'avais plus le statut d'esclave. Les djihadistes m'ont donné les mêmes droits que les autres. Je me suis mariée, je ne travaillais plus pour les autres, j'avais ma propre maison.
Elle jure que si elle retrouve son mari, lui aussi converti, elle le rejoindra. Où qu'il soit, elle ne garde en mémoire que les bons souvenirs, elle occulte les mauvais. Et pourtant, ils sont nombreux, raconte Dounia de l'ONG Elisker, à qui Zena s'est confiée lors de son arrivée dans le camp.
Elle a souffert au début quand elle était esclave. Elle a été vendue deux fois, il y avait la prière obligatoire, les leçons sur le Coran, l'obligation de se convertir. Et surtout, elle était torturée par les djihadistes et par leurs femmes qui la frappaient avec des bâtons, lui donnaient des gifles et des coups. Mais après le mariage, elle a tout oublié. Et maintenant, elle dit que sa vie sous Daesh était bien.
Repoussées par leur famille car converties, ces femmes regrettent leur vie dans le califat. Elles sont imprégnées par l'idéologie de l'État islamique. Un État désormais moribond, mais qui, à travers elles, ne demande qu'à renaître.
Mathieu Mondoloni avec Eric Audra, envoyé spécial à la frontière irako-syrienne. La Syrie et Baghouz encore, où a bel et bien été tué le djihadiste français Fabien Klein. Hier soir, la coalition anti-Daesh dirigée par les États-Unis a confirmé cette information. Fabien Klein avait mis sa voix sur la revendication des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. Jusqu'à 1 million de dollars, les États-Unis offrent cette récompense pour toute information permettant de retrouver Hamza Ben Laden, présenté comme un dirigeant clé d'Al-Qaïda, considéré comme le fils préféré, voire le successeur désigné d'Oussama Ben Laden. Il est déjà sur la liste noire américaine des personnes accusées de terrorisme. Ce djihadiste-là a été arrêté. Il est accusé à Bruxelles d'avoir tué 4 personnes en mai 2014 au musée juif de la capitale belge. Le procès de Medine Mouche se poursuit. Antoine Marette a assisté hier pour France Culture aux plaidoiries de la défense, a priori peu convaincantes.
À défaut de révélations promises pour faire basculer le procès, maître Sébastien Courtois a tenté de semer le doute chez les jurés. Pendant plus de 6 heures, l'avocat a déroulé sa version parallèle sur ce qu'il s'est passé le 24 mai 2014. Une version qu'il a argumentée avec ce qu'il a qualifié de troublante coïncidence, mais sans jamais apporter de preuves. Maître Adrien Masset est l'avocat du musée juif de Belgique.
Je ne m'attendais à rien, effectivement, ce fut rien. Ce fut un feu d'artifice de pétard mouillé. Donc c'était bien la technique du saucisson que je pressentais. On essaye de montrer quelques petites faiblesses du dossier qui n'érodent évidemment pas l'édifice dans son ensemble. Et les questions essentielles ne sont évidemment pas abordées. Que faisait Monsieur Nemouche à Bruxelles? Pourquoi allait-il à Marseille? Et donc si j'ai bien compris, parce que c'était d'un confus total, eh bien ce serait donc un piège dans lequel serait tombé Monsieur Nemouche par le fait des services secrets iraniens, tout en tartinant beaucoup sur un complot du Mossad. Tout ça est de la pure fantaisie. Si le jury est convaincu par ce type de plaidoirie, je crois qu'on a beaucoup de choses à revoir.
Sur la forme, vous l'avez trouvé bon?
Sur la forme, je l'ai trouvé touffu. sans structure, vulgaire et grossier.
Les avocats de la défense ne se sont pas exprimés à l'issue de cette plaidoirie. Le jugement sera rendu jeudi prochain. Les peines des accusés seront prononcées le lendemain. Medine Mouche encourt la réclusion à perpétuité.
Ils sont désormais 3 hommes à accuser d'agression sexuelle l'ambassadeur du Vatican en France, le nonce apostolique Luigi Ventura. Le 3e de ces hommes a déposé sa plainte hier matin au Canada. Luigi Ventura, 74 ans, est déjà visé par 2 plaintes en France pour des faits similaires. Il se serait produit il y a moins de 3 mois lors de la cérémonie de vœux de la nouvelle année de la maire de Paris.
8h10 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Emmanuel Macron a dialogué jusque tard hier soir avec près de 400 femmes à Pessac près de Bordeaux.
Dans la droite ligne de son grand débat national, prise à partie hier par une gilet jaune, le président de la République a refusé de mettre un collier orné d'un gilet miniature. Aujourd'hui, il rencontrera des élus de la région et notamment Alain Juppé, maire de Bordeaux, en tête à tête dans une grosse demi-heure maintenant. Alain Juppé doit démissionner de son poste de maire de Bordeaux aujourd'hui avant de rejoindre le Conseil constitutionnel dans quelques jours. Un débat citoyen à Pessac, la commune de France où les prix immobiliers ont le plus augmenté l'année dernière, plus 20%. Peut-être est-ce l'une des raisons pour lesquelles les gilets jaunes y sont particulièrement actifs. C'est aussi le cas à Bordeaux où se trouve ce matin le président Anne Fauquemberg.
Même si Alain Juppé a renoncé il y a quelques semaines au projet de fusion entre la métropole et le département, Bordeaux et son renouvellement urbain concentrent évidemment l'attractivité économique, avec pour conséquence des loyers qui augmentent et moins de possibilités pour les plus pauvres de se loger en ville, des sentiments de relégation, de fracture qui sont venus nourrir la colère jaune. Alors elle s'estompe, mais il y avait encore 3500 manifestants samedi dernier dans le centre-ville, selon les chiffres de la police. La Nouvelle-Aquitaine, qui a par ailleurs organisé 876 réunions d'initiatives locales sur les 6442 qui ont déjà eu lieu partout en France. La région est la 9e à retenir l'attention du chef de l'État, tandis que la plateforme officielle du Grand Débat reçoit toujours des participants, 425 700 hier après-midi, qui ont produit 1 800 000 contributions. En ce qui concerne les questions ouvertes, celles qui sont relatives à la fiscalité et aux finances publiques sont une priorité. Elles réunissent 34% des opinions exprimées, puis vient ensuite la transition écologique avec 26% des contributions. Il y aura une première restitution détaillée les 11 et 13 mars prochains. Ce qui ressort des 4 thèmes sera présenté aux corps intermédiaires. Ce bilan permettra aussi de nourrir dans la foulée les conférences citoyennes mises en place également à partir du 15 mars avec des Français tirés au sort. Des Français qui, en dépit de leur investissement, restent sceptiques sur l'issue de ce grand débat. Dans un sondage diffusé hier après-midi, 6 sur 10 considèrent qu'Emmanuel Macron ne prendra pas en compte leurs propositions.
À compter d'aujourd'hui, toutes les entreprises de plus de 1000 employés sont tenues de publier les écarts de salaire entre femmes et hommes sous peine de sanctions financières d'ici 3 ans. La mesure sera étendue aux entreprises de plus de 250 salariés en septembre, puis à celles de plus de 50 salariés l'année prochaine. Hier, par ailleurs, l'Académie française s'est dite favorable à une large majorité à la féminisation des noms de métiers et de professions, Fiona Mogadam.
Il a fallu attendre 2019 pour que l'Académie française déclare « En ce début du XXIe siècle, la France connaît une évolution rapide et générale de la place des femmes dans la société sans que l'appellation réponde à cette situation nouvelle ». Alors pour s'adapter à son époque, l'Académie ne voit désormais aucun obstacle de principe à cette féminisation des noms. Un revirement car depuis sa création, elle s'y est toujours opposée. Eliane Viennot est linguiste et autrice notamment de l'Académie contre la langue française, le dossier féminisation.
Dès les années 1650-1670, on a les premières condamnations de termes qui étaient utilisés par tout le monde, des professions, des activités, des fonctions. Quand les femmes arrivent enfin à l'université, tous les nouveaux métiers devront être au masculin, et avec l'idée qui est derrière, il y a des métiers qui sont faits pour les hommes, il y a des pouvoirs des hommes auxquels les femmes ne peuvent pas accéder.
Ces mots qui existaient à l'époque réapparaissent petit à petit, aujourd'hui, enfin pour certains.
Il y a peut-être un certain nombre de mots qu'on ne va pas revivifier, hein, philosophesse, je ne sais pas si on en a vraiment besoin, mais pour beaucoup d'autres, il suffit d'aller piocher dans notre langue. Autrice, par exemple, écrivaine, sont des mots qui ont des siècles d'existence, qui ont été bien faits, morphologiquement justes, pas plus qu'on ne dit une chanteuse, C'est pas normal de dire une auteure. On va revenir aux usages normaux de notre langue.
Pour ces noms féminins nouveaux pour l'Académie, il n'y aura pas de liste exhaustive, mais c'est tout simplement l'usage qui tranchera.
Un usage qui a largement évolué au fil des siècles. Les détails de cette évolution de la langue française, féminisée ou non, c'est à retrouver en une de franceculture.fr. Le Salon de l'Agriculture 2019 fermera ses portes à la fin du week-end. Un salon sur lequel nous aurons beaucoup parlé, comme tous les ans, des filières bovines et laitières, du bio également, mais beaucoup moins de la filière forêt-bois. Pourtant, la gestion de la forêt française fait l'objet de nombreuses remises en cause. Elle est privée à 75%. Anne Lorchon a sillonné les Landes pour France Culture, recueillant les témoignages de professionnels. Entre une sylviculture intensive et une sylviculture plus proche du cycle naturel des arbres, celle-ci a plutôt les faveurs du grand public et c'est assez logique selon François Bonnet, le directeur général adjoint de l'Office national des forêts, l'ONF. Il nous explique que les citadins que nous sommes en majorité ne voient pas la forêt comme une ressource que l'on cultive.
Les forêts en France métropolitaine, ce sont des espaces qui sont façonnés par l'homme. Une forêt bien gérée, qui stocke le carbone, qui accueille le public, elle fait l'objet d'exploitations, de travaux. Or aujourd'hui, le défi pour nous, c'est que nos contemporains, qui sont des concitoyens plutôt citadins, ils érigent la forêt comme le paradigme de la nature, d'une nature préservée, et ils ne voient la forêt que comme un paysage naturel à préserver de toute intervention qui serait vécue comme une agression. Alors que ce patrimoine, déjà pour qu'il soit accueillant, il faut le sécuriser. Donc dans les grandes forêts domaniales où on accueille beaucoup de gens, si l'ONF ne faisait pas des exploitations pour enlever les arbres dangereux, pour faire en sorte que les peuplements soient pleins de vitalité, ces forêts seraient beaucoup moins accueillantes. Pour que la forêt remplisse ce rôle incomparable de fixation puis de stockage du carbone, on sait que c'est les jeunes peuplements qui viennent d'être régénérés, qui poussent, qui stockent, qui sont les pompes à carbone. Donc si on n'entretient pas ces cycles forestiers par l'exploitation, par la coupe des arbres matures remplacés par des arbres plus jeunes, et bien la pompe à carbone elle fonctionne beaucoup moins.
Forêt, une ressource à sauvegarder, c'est le grand reportage du jour diffusé ce soir sur France Culture à partir de 17h. Il est réalisé par Anne Lorchouin et Annie Bro. Vous pouvez déjà découvrir la page internet de ce grand reportage entre témoignages et photos sur franceculture.fr. Le compositeur André Prévin aura reçu 4 Oscars au cours de sa carrière, réalisant notamment l'opéra Un tramway nommé Désir en 1995. Nous apprenons son décès à l'âge de 89 ans. André Prévin a dirigé de nombreux ensembles, dont le Royal Philharmonic de Londres ou New York Philharmonique. La perturbation pluvieuse se dirige vers le nord-est de la France ce matin avec un ciel bien chargé. Ailleurs, la matinée sera grise, puis ensoleillée sur le sud. Comptez ce matin 8 degrés à Lille et Besançon, 10 à Paris et Nantes, 11 degrés à Bordeaux et Lyon, 15 degrés la maximale ce matin à Marseille et à Bastia.